C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
D'abord, nous sommes heureux de retrouver notre commissaire, M. Luc, oui. Ce matin, qui est absent depuis le début de la semaine. La rumeur voulait qu'il soit en réflexion suite à l'offre d'Éric Duhem. Et je pense qu'il a décliné, donc il est de retour ce matin.
Merci. Ça fait plaisir d'être revenu.
On va parler évidemment de cette nouvelle, la reddition de comptes. Le ministère de la Santé qui a donné des contrats de gré à gré là, d'une valeur de 6 milliards durant la pandémie. En disant, surtout, c'est pour des équipements de protection. Est-ce que la pandémie peut tout justifier? Luc?
Moi, je pense que oui. C'est-à-dire que, pas tout, évidemment, là, le mot est fort, mais rappelons-nous, là, en début 2020, il y avait des équipements qui étaient dédiés au Canada. Le Canada les avait achetés, puis sur les tarmacs en Chine, ou c'était en Indonésie, en Malaisie, je ne me rappelle pas. Les Américains sont arrivés avec des liasses de billets et ils ont pris sous notre nez les équipements. Ça jouait dur. Ça jouait très, très dur. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment ils avaient fait. Parce que, tu sais, il n'y a pas un coffre-fort dans le bureau du ministère de la Santé là, où tu piges de l'argent comme tu veux. Là, chaque dépense doit être justifiée. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais ils l'ont fait. Et toujours est-il que là, il fallait réagir. Puis le Québec est allé des très, très, très gros prix. On dit qu'on a payé 1 milliard de trop pour certains équipements. Ben, au total des équipements. 1 milliard de trop. Bon, ça, c'est un premier point, le contexte. Le deuxième point, c'est combien de temps ça prend pour faire des dépenses de centaines de millions normalement. C'est très, très, très long. Il faut que tu évalues la validité de la demande, les alternatives, la décision de faire soi-même ou pas. Est-ce qu'il y a des fournisseurs locaux, les coûts, une enquête sur les soumissionnaires. C'est très long. Et c'est 3 lectures. Ça passe en conseil, etc. Je ne sais pas si c'est 3 lectures, mais à Montréal, c'est 3 lectures avant adoption. On parle de mois et de mois. On n'avait pas ces mois-là, là. Donc, pour moi, c'est clair que c'était une bonne chose d'y aller avec des mesures d'urgence.
Bien, est-ce que la pandémie excuse tout aux yeux du gouvernement? Assurément, mais aux yeux des partis d'opposition et du public, moi, j'aurais tendance à dire non. Non, parce que ben, faut savoir là, que c'est 6 milliards de contrats qui ont été accordés de gré à gré. Et puis, un petit pas de recul, là, la pandémie, là, c'est 15 milliards de dollars d'investissement de la part du gouvernement. Là. C'est énorme, là, c'est énorme. En fait, 6 milliards de contrats de gré à gré sans appel d'offres, c'est une première dans l'histoire. C'est sûr que vous allez me dire que la pandémie, effectivement, était elle aussi unique, mais ça démontre à quel point le gouvernement a eu de la latitude. Et après ça, on peut légitimement se demander pourquoi le gouvernement tenait mois après mois, à renouveler le fameux décret qui lui permettait de faire ce qu'il a fait. Hier, Vincent Marissal, député de Québec solidaire, a dit il faudra, éplucher chacun des contrats, puis il y en a, tenez-vous bien, 4 500. Fait que d'après moi, l'opposition d'ouvrage encore pour quelques années a épluché tous ces contrats. Je trouve l'idée intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on va découvrir qui peuvent être questionnés malgré le contexte de la pandémie. La vérificatrice générale du Québec, rappelez-vous, elle a fait un constat, c'est 2021, si ma mémoire m'est fidèle, que juste le fait que le Québec n'était pas prêt pour ce qui est des fameux équipements de protection, les masques, les blouses et tout ça, ben parce que le Québec, le ministère de la Santé, la santé publique n'était pas prêt, ben le Trésor public a perdu 1 milliard de dollars parce que ces fameux équipements qu'on s'est procurés durant la pandémie ont coûté beaucoup plus cher. Fait qu'on était dans une espèce de mode panique. Tu l'as très bien illustré, Luc, entre autres avec l'exemple des équipements qui arrivaient sur le tarmac d'un aéroport chinois puis qu'on se les faisait voler. C'était fou, là. Rappelez-vous, la première vague, là, c'était la panique. Et en fait, moi, je pense que oui, effectivement, la pandémie peut expliquer beaucoup de choses. Mais prenons, par exemple, les contrats en technologie de l'information. OK? Bon, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, là? Puis on peut se demander légitimement, est-ce que tous ces 4 500 contrats qui ont été octroyés, est-ce que le contexte, est-ce que l'urgence sanitaire justifiait le recours à tous ces contrats de gré à gré, au processus de gré à gré pour octroyer ces contrats? Moi, je pense que la question se pose.
Ah oui, c'est clair. Moi, je suis sûr que dans les 4 500 contrats, Nathalie, il va y en avoir 10-15% pour lesquels il va y avoir des irrégularités. Persuadé. Je suis sûr que c'est pas tout legit, là. Quand je dis que c'était inévitable, oui, parce que, comme tu dis, il fallait y aller, là. Mais,
oui.
Mais c'est sûr, c'est certain. Parce que tu parles de technologie de l'information. C'est tellement compliqué, des fois, quand une compagnie vient pour faire un ajustement, une mise à niveau sur un système informatique.
Oui.
Puis là, Elle a dépassé son mandat, le budget pour lequel elle devait agir. Et là, il faut repartir en appel d'offres. Mais elle a fait déjà 70 % du travail. Fait que si tu repars en appel d'offres, c'est quasiment un faux appel d'offres. Parce que là, il faudrait que l'entreprise qui a fait le premier 70 % transfère toutes ses connaissances puis l'évolution du dossier à celle qui va venir faire le 30 % restant. Là, des fois, les appels d'offres, là, c'est de la gamique. Là, c'est-à-dire que c'est du marketing parce que c'est impossible de fonctionner tout le temps, tout le temps. Alors là, évidemment, ils ont dû se gâter. Là. Ils ont dû, ah ouais, go, finis-là ton 30 % puis ça presse. Là. Il y a deux domaines aussi dans lesquels il y a souvent des problèmes dans les appels d'offres. Je dirais le favoritisme dans les embauches. Ça, c'est surtout en région, malheureusement. Pas parce que les régions sont plus moins éthiques, mais il y a moins de monde. Fait que tu peux souvent tomber sur la belle-sœur ou le beau-frère qui, justement, a déposé sa candidature pour un poste. Alors là, il y a des problèmes. D'ailleurs, il y en a eu avec le 6 dans Gaspésie.
Oui, oui, oui.
Il n'y a pas longtemps. Puis l'adjudication des contrats à des entreprises ou dans lesquelles il y a des membres de la famille d'un élu. Encore là, à cause de la petitesse du milieu, ça arrive souvent. Et donc, mais ça, est-ce que c'est, tu sais, j'en ai vu souvent des affaires comme ça, puis tu regardes dans le détail, puis tu t'aperçois que l'entreprise dans laquelle il y avait effectivement l'épouse d'un élu ou le fils d'un élu, finalement a fait une offre qui était moins chère que le concurrent. Alors, oui, c'est pas supposé, puis ça faut que ça soit signalé, etc., mais c'est pas là que sont les grosses, grosses tricheries. Les grosses tricheries sont dans la collusion.
Mais moi, j'allais vous poser comme question, j'avais trois éléments pour essayer de comprendre ça. C'est sûr, comme dit Luc, qu'il va y avoir des fling-flang en quelque part. Là, mais là, je me suis dit, OK, est-ce que en termes d'équipement, ils ont été capables d'en acheter assez, de récupérer le temps perdu? Rappelons-nous que c'était une pénurie au départ. Moi, je pense qu'ils ont été quand même astucieux assez vite. Ça inclut le gouvernement fédéral aussi dans ça. Deuxièmement, est-ce que quand ils ont mis en place le système de prise de rendez-vous pour la vaccination, ça a marché? La réponse est oui. Est-ce que donc ça a coûté trop cher? Peut-être. Puis troisièmement, à quel endroit on aurait pu assister, mis à part les équipements de protection, il y a des fraudeurs qui ont sans doute non seulement siphonné
l'équipement,
on sait qu'il y en a eu, mais à quelle place il y a des gens qui auraient pu abuser? Moi, je vais donner un exemple tout petit. Là, durant la crise du verglas, il y avait une boutique qui avait augmenté de 4 fois le prix de ses bougies. Fait que si une boutique est capable de faire ça, c'est sûr qu'il y a du monde qui en profite pour, disons, épicer la facture.
Ah, c'est certain. Surtout, c'est un fournisseur unique. Si c'est un fournisseur unique puis qu'il est rendu loin dans les négociations puis qu'il revient te voir en disant ah, tu sais pas quoi, finalement l'usine n'était pas capable de les fournir, il a fallu qu'on fasse affaire avec une autre usine qui est 3 fois plus chère. C'est pas vrai, mais c'est vrai, c'est ça qu'il va dire. Alors c'est clair quand je dis qu'il va y avoir eu de la collusion, il y en a qui se sont graissés les poches au maximum.
C'est sûr, c'est sûr.
Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer un inspecteur. C'est ça qu'ils font d'habitude, là. Ils envoient un inspecteur sur place, dans l'usine, qui les produit, qui suit la production du produit. Ils font des enquêtes sur les concurrents. Est-ce que tel aurait pu... Il n'y avait pas le temps de faire tout ça.
Je comprends, Luc, sauf qu'il faut aller plus loin dans cet exercice, parce que le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'est engagé à déposer là, tout ce qui était déposé d'ici le 10 juin. Là, la session parlementaire se termine demain. Là, c'est évident. Les députés ne pourront pas faire leur travail pour effectivement savoir ce qu'il y a eu des abus en quelque part. Mais moi, je pense que c'est important d'aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'on est dans une dynamique de reddition de comptes. Puis deuxièmement, comment peut-on identifier peut-être ce qui a été mal fait, qui aurait dû être fait autrement? Est-ce qu'il y a effectivement eu des pratiques qui sont condamnables aux yeux de la loi? Deux. Puis troisièmement, comment mieux se préparer pour le futur? Parce que là, c'est ce qu'on nous a dit durant la pandémie. Ah, inquiétez-vous pas, s'il arrive une autre situation comme celle qu'on vit, puis on n'espère pas, on s'entend, mais on va être prêt, on va être prêt. Ben oui, il me semble qu'on a déjà entendu ça, on va être prêt. Là. H1N1, je me souviens de ça. Toi.
La prochaine crise, ça va être une inondation. On va avoir full de masques, mais on n'aura pas de sac de sable.
Ou pas de bottes de pluie. Non, là, ben, tu vois, c'est ça. Là,
non, mais en même mieux temps, là, c'est difficile. Je me souviens quand il y a eu... Québec avait acheté du Tamiflu. Puis des quantités impressionnantes. Puis il y a une date de péremption là-dessus. Puis ça n'a pas été la vague qu'on pensait. Puis là, on blâmait, je pense que c'était Philippe Couillard qui était à la santé. On disait, mais comment ça se fait qu'il a acheté ça pour rien? Bien là, si tu l'achètes puis tu t'en sers pas, tu l'as, mais heureusement, le monde n'a pas été si malade. Tu passes pour un irresponsable. Si ça avait été une pandémie grave puis que le monde avait eu besoin de ça puis qu'on n'aurait pas eu en stock, il serait fait ramasser. Ce que je veux dire, c'est à un moment donné, ça devient difficile à dire j'achète pas, à quel prix, à quel moment?
Ben écoute, Paul, quand une conduite d'eau pète à la ville de Montréal, ouais, tu n'as pas le temps de faire un appel d'offres pour savoir, mais ça coûte 3-4 fois plus cher que la faire réparer que si tu l'avais fait par appel d'offres, mais tu n'as pas le choix.
Parce que là, elle vient de péter.
Elle vient de péter. Un autre exemple, quand il y a eu la crise du verglas, Hydro-Québec manquait de poteaux, poteaux de bois. On achetait ça dans le Maine, transportait en hélicoptère pour aller plus vite. Ça coûtait 10 fois le coût du poteau pour le transporter. Mais on n'a pas le choix non plus. Fait qu'il faut faire la différence entre les éléments pour lesquels on n'a pas le choix parce qu'il y a de l'urgence, puis les autres, ouais, comme vous avez mentionné, les contrats de technologie d'information puis toute l'informatique,
ouais,
et autres ressources humaines.
Ben moi, en terminant, je dirais, ouais, que le gouvernement est constamment confronté au défi de la prévisibilité. En fait, on ne peut plus... le gouvernement ne peut pas toujours être dans un mode de réactif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il essaie de voir un ou deux coups d'avance. Et c'est une des leçons qu'on doit tirer de cette pandémie, c'est celle-là, comment le gouvernement peut mieux se préparer pour le futur.
On s'arrête pour la pause. Au retour, est-ce que Montréal, comme l'affirme la ville, est toujours une ville donc sécuritaire?
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, en gros, nous avons une fusillade à Montréal sur une base qui est en progression pratiquement tous les deux jours et demi depuis quelque temps. Et malgré cela, la ville, les autorités disent que Montréal est une ville sécuritaire. Nathalie.
Bien là, on prend une grande respiration, les amis. Et oui, Montréal est une ville sécuritaire. J'avoue que la situation est grave d'une certaine façon. Et c'est même tentant d'affirmer que Montréal n'est pas une ville sécuritaire lorsqu'on apprend, comme tu l'as dit, Paul, qu'il y a une fusillade à tous les deux jours et demi. Mais il faut éviter de sombrer dans un scénario qui ne traduit pas la réalité. Parce qu'il y a des quartiers chauds à Montréal, on les connaît, là, le nord-est, le sud-ouest. Mais Montréal, ce n'est pas Philadelphie, par exemple. Et même si les homicides par arme à feu ont augmenté, même si les événements où il y a eu une décharge ont augmenté, puis ça, j'avoue que les chiffres sont impressionnants. Tu vois, en 2021, 144 événements avec décharge versus 71 en 2020. Alors, malgré ça, en fait, il faut résister à cette tentation de crier au loup. Et l'autre chose, doit-on s'étonner de pareils chiffres? La réponse, c'est non, lorsqu'on sait qu'il y a quoi? 2000 armes illégales qui circulent sur le territoire de Montréal et probablement que c'est plus compte tenu de ce qui se passe à Laval. Alors, et j'ai envie de vous dire, attention au discours de l'opposition à l'Hôtel de Ville qui a tendance effectivement à éviter de faire dans la nuance et de présenter Montréal comme si c'était là, le feu et le sang, comme si Montréal était à feu et à sang tous les jours de l'année.
Moi, je compare avec une autre ville qui a des problèmes d'armes à feu importants en ce moment, c'est New York. Et on a 4 fois moins d'homicides que New York, toute proportion gardée, là. Et donc, c'est beaucoup moins violent que New York. Et pourtant, on a saisi la moitié moins d'armes que New York, toute proportion gardée. Donc, 2 fois plus d'armes, toute proportion gardée, que New York. Donc, il se passe des choses à Montréal. Il y a un bon travail qui est fait par la police. Puis pourtant, New York met la pédale sur le gaz, là. Donc, il se passe des bonnes choses. Puis, c'est pas encore si violent que ça. Néanmoins, 4 fois moins violent que New York, c'est quand même inquiétant. Parce que ce qui m'inquiète, moi, en particulier, c'est que c'est pas l'épidémie d'armes à feu et de coups de feu. Donc, tu l'as dit tantôt, donc on a doublé le nombre de coups de feu en un an, ou des événements dans lesquels il y a eu des coups de feu. Elle n'est pas appuyée sur une criminalité. C'est pas comme s'il y avait eu un doublement de la criminalité. Là. Il y a deux fois plus d'exploitation sexuelle ou deux fois plus de crimes ou deux fois plus de... Non, il y a ou de drogue. Il y a un nombre à peu près constant de criminalité en légère hausse, mais ou légère basse selon les années, mais une augmentation du nombre d'événements avec armes à feu. Ça veut dire que c'est une épidémie. Ça veut dire que des jeunes qui n'utilisaient pas d'armes à feu dans les années précédentes les utilisent maintenant sans qu'il y ait eu un motif autre que « je me suis acheté une arme ». Ou alors, tu sais, il n'y a pas eu, par exemple, un nombre incroyable d'augmentation de meurtres à l'arme blanche, puis là, tout à coup, hop, c'est remplacé par des armes à feu. Non, c'est tout à coup, boum, c'est un effet de seuil de tarif, puis tout à coup, les armes à feu. Donc, les autres en ont une, moi, je vais en avoir une. Le deuxième motif d'inquiétude, c'est qu'il y a des innocents. Donc, le scoring, on va dans le quartier de l'ennemi, puis on tire au hasard. Les erreurs sur la personne, parce que c'est tellement rapide comme réaction qu'il y a eu plusieurs erreurs sur la personne. C'est pas... c'est pas une vengeance fomentée sur plusieurs mois, là où on identifie clairement là où la personne habite, quels sont ses déplacements, etc. Les balles perdues. Alors, ça, c'est le deuxième motif. J'ai un troisième motif d'inquiétude, c'est la culture, le mélange de guns puis de médias sociaux, où tu as un kid de 16 ans, les culottes à terre, les bras croisés sur son chest avec des lunettes noires, qui dit « Your hood is unsafe now », tu sais. Alors, cette envie de faire peur à l'autre, cette envie de se montrer avec des armes, qui peut être très... qui peut contaminer beaucoup de monde en se disant « ça semble être la manière de faire. Lui, c'est un vrai tough. Moi, je suis pas un vrai tough. » Ces trois motifs-là m'inquiètent.
Oui, mais en fait, on va continuer de s'inquiéter, Luc, tant aussi longtemps qu'on n'osera pas crever l'abcès. Puis crever l'abcès, là, c'est s'attaquer au trafic d'armes dans certains territoires autochtones. Les autorités n'oseront jamais le dire, mais parler à des agents frontaliers, parler à des policiers, là, puis je me souviens trop du formidable reportage qu'avait fait GIA là-dessus, justement. Ils ont suivi la route d'une arme à feu, là, à partir de la frontière américaine qui a traversé le territoire canadien. À quoi ça se naît? Kanasatake, Kanawake. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est un. Deuxièmement, la frontière canadienne. Savez-vous comment le gouvernement de Justin Trudeau, parce que là, depuis 2015, la politique de Justin Trudeau en matière de frontières, on s'entend, entre autres avec le chemin Roxham, là, c'est une politique un peu du laisser-aller. Il y a un agent frontalier qui nous a écrit dans l'émission il n'y a pas si longtemps, on les appelle maintenant des facilitateurs au mouvement frontalier. Des facilitateurs au mouvement frontalier. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les douaniers n'ont pas les moyens dont ils devraient disposer pour faire le travail et pour, dans le fond, être efficaces pour ce qui est du nombre d'armes à feu qui entrent en sol canadien. Alors, juste la gestion de nos frontières, c'est une blague. Les Américains nous regardent, puis ils doivent faire leur travail à notre place, là. Ça, c'est un gros manque, et le gouvernement de Justin Trudeau peut bien adopter toutes les lois qu'il veut pour contrôler, resserrer le contrôle des armes à feu. Mais si on s'attaque pas au contrôle, un meilleur contrôle aux frontières, si on ne donne pas de meilleurs moyens aux agents frontaliers, si on ne s'attaque pas au trafic d'armes qui passe par certains territoires autochtones, oubliez ça, là. On va composer avec une criminalité qui va toujours être en augmentation, puis on va en investir des millions pour donner davantage de moyens aux policiers. Mmh. Alors moi, je me dis, ayons le courage de dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est ça la réalité.
Ben absolument. Mais il y a aussi la loi. Est-ce qu'on doit être plus sévère avec les contrevenants qui ont utilisé des armes à feu?
Absolument, absolument.
T'as vu que Trudeau vient de passer une loi qui enlève les peines minimales pour...
Il y a des peines maximales plus importantes, mais il n'y a pas de peine minimale.
C'est ça.
On passe de 10, de quoi? De 10 à 14, à 14 ans, exactement, ouais. C'est ça.
Sauf que à New York, j'ai pris encore l'exemple de New York, le maire Adams, qui a été élu il n'y a pas longtemps, là, un an et demi à peu près, est arrivé à la conclusion, là, puis pourtant ce sont des démocrates là, qui contrôlent New York, sont arrivés à la conclusion que tous les programmes qu'on met en place, il faut qu'il y en ait des programmes santé mentale, compréhension des besoins des jeunes, opportunités de travail pour donner vraiment du travail, par exemple d'été dans les quartiers où sévissent la violence pour des jeunes qui ne sont pas encore criminalisés. Tout ça, faut le faire. Travaille sur les interventions à peu près de la même manière que nous, renforcer l'enquête, renforcer la patrouille. Mais ils viennent d'ajouter tout un segment sur la loi. Et alors, tenez bien votre truc avec la broche, là. Trafic d'armes, là, dorénavant, c'est pas à partir de 10 armes, c'est considéré à partir de 3 armes. Âge des contrevenants, ça c'est important. Beaucoup de jeunes de 18 ans et plus demandent à des jeunes de 18 ans et moins de commettre les crimes à leur place parce que là, ils vont être jugés à la cour de jeunesse, au tribunal de jeunesse, au lieu d'être à la cour criminelle. Et là, ils ont mis une disposition dans la loi qui indique que si tu as été mandaté pour faire un crime, tu dois donner le nom de ton complice. Ou alors, toi-même, tu vas être considéré comme ayant 18 ans et plus.
Alors, ben, tu vois, le message que ça envoie, c'est comme on prend ça au sérieux.
Oui,
c'est
ça le message que ça envoie. On biffe les différences de traitement entre la possession et l'utilisation. Il y a une arme, on ne cherche pas si tu l'as utilisée ou si tu l'as possédée. Tu as une arme, pénalité immédiate. Une chose extrêmement importante, on prend compte de la dangerosité de la personne. C'est pas est-ce que tu as des antécédents judiciaires et quel âge tu as, c'est est-ce que ce que tu as fait est un crime extrêmement violent ou est-ce que c'est pas extrêmement violent. Et si c'est extrêmement violent, on ne prend pas en considération tes antécédents, c'est tout de suite jugé en fonction de la dangerosité. Alors, il me semble que si notre grande sœur nord-américaine sur la côte Est prend ces mesures-là parce qu'ils sont passés par le même chemin que nous, on devrait au moins les regarder.
Merci à tous les deux. On vous retrouve demain.
C'est 23.